Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est de 11h à midi, comme tous les dimanches. C'est décidé, Maurice, on reste au Mexique, on reste à Mexico.
À Mexico, buenos días, Fidelis.
Je suis la petite sauterelle du coin, je suis Chapultepec aujourd'hui.
Vous pourriez être à Chapultepec. Chapultepec, c'est vraiment la colline de la sauterelle, nous y sommes. Regardez, une sauterelle posée sur un petit mont.
Maurice, je suis au milieu du parc. Ce parc, c'est Chapultepec. Et au milieu de ce parc, le musée d'anthropologie.
Il faut dire que dans ce parc, il y a effectivement des lacs. Il y a d'abord le château, le fameux château de Maximilien, qui est sur la colline de Chapultepec, d'où le nom du parc. Il y a énormément de choses dans ce parc. Il y a même un jardin zoologique, il y a des essences rares, il y a les ahuehuetes. Ce sont des arbres assez curieux, avec des espèces de grandes barbes comme ça. Ce sont des arbres qui ressemblent un peu à nos peupliers, qui vivent dans les climats un peu subtropicales, même si vous êtes à 2000 mètres d'altitude. Et c'est vrai, il y a ce musée d'anthropologie. Alors c'est déjà une exception architecturale extraordinaire, puisque en 1964, on a décidé de le construire d'un seul coup, d'un seul bloc, en une seule fois, carrément au milieu des arbres, c'est-à-dire sans rien toucher, sans rien abîmer. Et on a fait d'abord une maquette complète de bois, c'est un musée extraordinairement grand, et en définitive, on a décidé comme ça en 19 mois de faire une construction qui est la plus insensée du Mexique, la plus belle du monde sur le plan muséographique.
C'est des grands bâtisseurs, les Mexicains.
Oui, et puis c'est l'inspiration surtout de l'architecte qui en fait vraiment un monument tout à fait original, parce que en définitive, Pedro Ramirez Vázquez, ben tiens, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est lui qui a également conçu notre musée olympique à Lausanne, et c'est un architecte qui a décidé de reprendre tous les critères précolombiens, c'est-à-dire que vous avez une enveloppe qui est totalement rectangulaire, comme un grand palais, comme un grand temple précolombien, avec un patio intérieur extraordinaire. Et il a surtout joué sur l'ombre et la lumière avec des matériaux qui sont pratiquement tous des matériaux qui viennent de la vallée de Mexico. Donc des pierres qui sont basaltiques, noires, rouges. Il y a juste l'entrée monumentale avec des jets d'eau, avec un marbre de Carrare, c'est la seule exception. Tout le reste est en marbre de Puebla ou des pierres qui viennent du Mexique. Et à l'entrée, vous avez naturellement l'aigle et le serpent sur son cactus qui vous attend. Et lorsque vous pénétrez dans le hall, vous êtes déjà surpris par la dimension. Et sur votre droite, il y a une superbe peinture qui est due au peintre peut-être le plus intéressant du Mexique au point de vue contemporain, c'est Rufino Tamayo. Et si je vous dis cela, Frédéric, c'est parce qu'en fait, dans le musée, il n'y a que des œuvres d'art qui ont été conçues en 1964 par tous les peintres, par tous les artistes, par tous les artisans du Mexique. Et au premier étage de cet immense musée en forme de rectangle, toutes les salles d'ethnographie qu'on visite très peu souvent ont été faites et conçues par les indigènes eux-mêmes. C'est-à-dire, même s'il y a une hutte, elle a été construite par l'indigène de sa communauté. Mmh. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est la première fois qu'on tentait une expérience pareille. Alors, tout le bas, qui est immense, il y a une dizaine de salles qu'il faut absolument visiter, sont consacrées à l'archéologie. Il y a 10 000 pièces qui sont réunies dans ce musée. On en change très peu depuis 64, mais il y a des réserves qui sont absolument incommensurables en sous-sol. Et quand on pénètre, après avoir vu cette peinture de Rufino Tamayo, qui représente naturellement la lutte de la lumière et de l'ombre, vous avez un superbe serpent à plumes vert avec un tigre,
c'est
dans
l'emblème
des tons rouges. Le serpent à plumes n'est pas l'emblème du Mexique, mais l'aigle posé sur le cactus.
C'est le dieu du Mexique.
C'est un des dieux du Mexique. C'est le dieu peut-être le plus connu, qui s'appelle le serpent à plumes précieuses, qui est sous la forme de Vénus d'ailleurs. Vénus qui ondule dans l'espace, qui remonte de temps en temps, qui revient de temps en temps à l'horizon. Mais et puis le jaguar, c'est vraiment le dieu tonien, enfin de l'inframonde, qui est là pour dévorer le soleil et qui permet les éclipses. Enfin, il y a toutes sortes de mythologies autour de ces deux animaux qui sont assez curieux, parce que c'est vrai qu'un serpent à plumes, c'est pas commun, vous avez compris qu'il pouvait aller sous terre, il est aquatique, et puis en même temps, il est volant, bien sûr. Mmh. Alors, dès que vous avez passé ce premier stade, à gauche, il y a la bibliothèque, vous avez naturellement les tickets, sachez quand même que le dimanche, c'est gratuit, ça vaut la peine. Et que là, vous allez retrouver, on avait décidé d'y aller un dimanche, je crois, non ?
Oui, c'est ça.
On avait pris le métro, on avait croisé effectivement tout ce petit peuple de Mexico dans le parc.
Je suis arrivé hier, par avion.
Vous êtes arrivé un samedi, c'est ça ? Ben pourquoi pas ? Et en l'occurrence, le dimanche, j'aime bien parce qu'il n'y a pas les classes enfantines comme la semaine qui sont merveilleuses. Vous avez des milliers d'enfants en petits costumes comme ça qui sont assis devant une statue avec leur maîtresse qui leur explique tout cela ou leur instituteur qui leur refait toute l'histoire du Mexique. Il y a un intérêt absolument fou pour cette histoire précolombienne qui, politiquement, a été mise en avant comme une époque tout à fait héroïque. C'est assez normal quand un pays a obtenu son indépendance contre l'Espagne. Je dis bien contre parce qu'il y a vraiment une coupure. On ne trouve rien d'espagnol à Mexico. Et même si le style, si les choses sont restées, on prétend plutôt que le côté précolombien, c'est le côté héroïque. Et on met en avant les héros justement qui ont subi Cortés. Montezuma est oublié parce qu'il est un peu traître, ou en tout cas un peu vil parce qu'il n'a pas osé lutter. Mais par contre, Cuauhtémoc, le tout dernier, c'est l'aigle qui tombe, lui est devenu un véritable héros. Et puis, si vous pénétrez à l'intérieur, là, vous aurez la première image qui est absolument éblouissante. C'est le fameux parapluie du musée d'anthropologie. On entend déjà l'eau qui coule. On le regardera tout à l'heure.
Thank you.
Maurice, nous sommes au musée d'anthropologie de Chapultepec. Je suis dans le patio central et j'ai remarqué cet immense parapluie.
Un parapluie qui sort de l'ordinaire parce qu'en définitive, c'est une construction assez folle. D'abord, il faut imaginer le patio lui-même. Au premier étage, il y a donc ce musée d'ethnographie. Et puis, on a protégé les fenêtres de ce premier étage par des jalousies en aluminium qui sont absolument sublimes dans leur découpe et qui permettent justement de donner ce ton un peu précolombien comme on l'avait dans les fameux palais que j'évoquais tout à l'heure. Et ce parapluie ne cache rien, si vous voulez, de cette luminosité. Mais c'est une sorte de colonne, d'abord, absolument incroyable. Bon, je vous donne un chiffre, Frédéric. Il y a à peu près 1600 tonnes devant vous qui ne tiennent que par un seul pilier qui monte à 11 mètres de hauteur. Je crois qu'il y a 22 mètres en sous-sol pour le maintenir avec toutes sortes de béton armé. Mmh. Et puis, cette colonne a des gravures sublimes qui représentent la création du monde, les différentes formes de l'univers précolombien ou éventuellement hispanique et européen. Et puis, le sommet du parapluie, c'est un immense rectangle qui fait quelque chose comme 82 mètres sur 50 et quelques. Et il est complètement soutenu par des câbles, des tendeurs qui sont placés au sommet qu'on ne voit pas du tout depuis l'intérieur du patio bien sûr, et il n'est posé qu'à quelques mètres de la surface du premier étage, donc on a l'impression de quelque chose qui vole dans l'espace. Et il y a naturellement une déclivité très forte qui est donnée. C'est un parapluie ouvert à l'envers, si vous voulez, et ces plaques d'aluminium rendent le sommet invisible naturellement, et l'eau de pluie va s'écouler à l'intérieur et glisser petit à petit comme un grand rondeau autour de la colonne centrale. Et par terre vous avez des grilles de pierre avec des tout petits trous, ce qui fait que vous avez l'impression que tout le patio peut être inondé comme ça autour de la colonne, mais tout cela disparaît petit à petit en éclatement de gouttelettes. C'est superbe. L'effet est absolument bouleversant parce qu'on sent qu'il y a une espèce de magie dans cette architecture, et en même temps on comprend l'univers précolombien, c'est le grand carré du monde, l'idée du plateau, l'idée de la colonne, l'axis mundi. Enfin, il y a un tas de symboles qu'on peut déjà expliquer, on peut pratiquement faire comprendre comment fonctionnait le monde précolombien avant de s'introduire dans les salles qui sont à côté. Et c'est vrai que quand on a visité pour la première fois le musée, on est choqué. Même à l'extérieur, il y a par exemple une statue absolument fantastique.
Oui, j'ai remarqué une immense statue.
Là, je parlais de tonnes, elle fait à peu près le poids du parapluie lui-même. Alors, c'est assez amusant parce qu'au moment où on a construit le musée, on s'est dit qu'il faut quelque chose qui fasse un peu publicité à l'entrée. C'est une immense statue de Tlaloc. Elle a été arrachée au lit d'une rivière qui est à 5 km, je crois, de Puebla. C'est un tout petit village, c'est plutôt près de Texcoco. Texcoco, c'est une partie du lac qui se trouve sur l'ouest de Mexico. Et dans ce petit village de Coatlichan, on a enlevé cette statue qui était donc encore fixée dans le lit de la rivière. Elle était en train d'être sculptée. C'est une immense chose un peu cubique comme ça, avec une tête de divinité.
C'est précolombien aussi.
C'est totalement précolombien. C'était même de la dernière époque qui correspond, disons, à Teotihuacan et jusqu'à l'époque aztèque. Et on a dû créer véritablement un véhicule spécial pour faire ces 48 kilomètres. Alors, je ne sais pas, si je vous disais qu'elle faisait plus de 160 tonnes, vous imaginez le déplacement. C'est un véritable cortège dans la ville de Mexico. Je crois qu'il avait fallu quelque chose comme un camion de 40 et quelques tonnes avec quelque chose comme 80 roues uniquement pour poser cette statue. Et les habitants du petit village que j'évoquais là-bas du côté de Texcoco, Coatlichan, se plaignent d'ailleurs depuis 1964. Vous savez pourquoi ?
Non.
Parce que Tlaloc, c'est la divinité de la pluie. Et ils prétendent qu'il pleut beaucoup moins depuis qu'on leur a enlevé cette
immense
statue. Elle était donc dans la carrière d'origine et c'est maintenant l'enseigne du musée. Alors si on s'intéresse introduit à l'intérieur, comme nous sommes maintenant dans le patio, par logique, on va commencer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, par des salles de l'origine même du monde précolombien. Mmh. Et en l'occurrence, quand on connaît le monde précolombien, eh bien, on doit d'abord saisir ce qu'est un Américain, en fin de compte.
Oui, mais justement, d'où viennent les précolombiens ?
Alors, l'origine des Américains est assez controversée, mais on peut dire que, grosso modo, tout vient du détroit de Bering, c'est-à-dire à la fin de la glaciation de Worms, aux alentours de 25 000 ou peut-être même 50 000 avant Jésus-Christ. Les premiers chasseurs qui vivaient du côté de la Sibérie ont continué à poursuivre leurs mammouths, leurs animaux préhistoriques. Et finalement, en suivant les troupeaux, ils se sont trouvés involontairement du côté de l'Alaska. Et le détroit de Bering était donc un passage à pied sec, en tout cas sur glace sèche, si vous voulez. Et finalement, en 20 générations, on a peuplé toute l'Amérique avec ces petites troupes qui sont rentrées comme cela. Alors la salle des origines est intéressante parce qu'on y trouve plusieurs choses. D'abord, on va vous expliquer bien sûr comment ces gens là vont évoluer, devenir des nomades, mais ensuite devenir des agriculteurs dans la région justement de la Mésoamérique qui comprend le Mexique. Et il a fallu, aux alentours de 8000, changer complètement le mode de vie parce que tout va fondre. Hein. C'est-à-dire que les fameux mammouths, les grands camélidés, il y avait des chameaux monstrueux, il y avait des tigres des sables, il y avait des chevaux. D'ailleurs, tout cela va disparaître d'un coup et c'est très bien présenté dans ces salles. On a un squelette du mammouth qui a été chassé dans la région justement de Texcoco par les indigènes. On a même retrouvé une petite pointe de flèche à l'intérieur du squelette. Donc on sait que ce sont des hommes qui l'ont tué dans les marais parce que Mexico à l'époque était un immense marécage. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'aux alentours de 6000 avant Jésus-Christ, bah, il faudra s'installer différemment. Il faudra arrêter la chasse, tout simplement parce que si les bisons sont restés dans le nord, au Mexique, il n'y a pratiquement plus rien. Il y a 2-3 cerfs, il y a 2-3 petites bestioles à poursuivre. Mais on va inventer naturellement la culture du maïs. On va domestiquer cette plante et en faire à peu près 1500 variétés. Il y aura la tomate qu'on va nous offrir, le cacaoyer, puisqu'on parle souvent du chocolat, et je dirais même le tabac, qui n'est pas forcément d'une grande qualité, mais enfin, on fumait beaucoup chez les Indiens, rappelez-vous, dans notre enfance, les calumets de la paix.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Hey!
Nous sommes toujours dans ce musée d'anthropologie à Mexico et on poursuit notre visite.
Oui, on a parlé des origines. C'est vrai que maintenant, on n'est plus nomade, on s'est installé. On va commencer à construire les premières pyramides. La toute première, de manière préclassique, se trouve dans le sud de la capitale de Mexico. Ça s'appelle... C'est la pyramide ronde de Cuicuilco. Et elle a été recouverte par un... C'est incroyable, il y a eu des éruptions volcaniques fantastiques dans cette époque. Tout a fondu, hein. Je parlais de la glace. Le détroit de Bering n'existe plus, en tout cas sous la glace. Il est maintenant... On est coupé. C'est-à-dire que maintenant, les Américains sont Américains. Ils se débrouillent entre eux. Mmh. Et en l'occurrence, on sait que par rapport à leurs origines, ce sont des gens qui venaient d'Asie. Et on a essayé dans ces premières salles de le prouver d'abord. Et pour le prouver, eh bien, on a remarqué quelques petits détails. Par exemple, que tous les Amérindiens... Enfin, les Américains, les Amérindiens, avaient une tache qu'on appelle la tache mongolique, qui apparaissait au bas du dos à la naissance. C'est une tache un peu bleutée, comme cela, qui disparaît au bout de quelques jours ou quelques semaines. Et ça existe en Asie, partout. Et puis on a remarqué que le groupe sanguin était le même que chez tous les Asiatiques, majoritairement, ils sont de groupe O. Et ce sont des petits détails, mais qui nous prouvent qu'effectivement...
Logiquement, ils viennent d'Asie.
Et oui, il n'y a qu'à regarder leurs yeux, ils ont les yeux bridés, ils ont un tas de détails, les cheveux, le système pileux, presque absent... la peau lisse, cette peau un peu brunâtre, tout cela, effectivement, est asiatique. Alors, quand on visite les premières salles, je dirais qu'on peut les passer assez rapidement et voir quelques chefs-d'œuvre. Il y a, par exemple, dans la salle préclassique, bien sûr, on va inventer l'enterrement, on est installé. Il y a, par exemple, les fabuleuses tombes d'un petit village, enfin d'une petite communauté qui s'appelle Tlatilco, qui est également très près de Mexico, où on a retrouvé un vase absolument sublime. On l'appelle le vase de l'acrobate parce que c'est quelqu'un qui est complètement contorsionné, c'est-à-dire qu'il est vraiment tourné à l'envers. On a l'impression que sa tête touche ses jambes et on en a fait
un vase d'obsidienne.
Non, c'est un vase de terre jaunâtre et c'est une maladie. Et là, on comprend immédiatement dans les premières salles que tout ce qui était anormal. Pour nous, en tout cas, c'est-à-dire quelqu'un qui naissait avec deux têtes, des siamois, les bossus, les gens qui avaient des bubons, des choses pas possibles, maladies les plus incroyables, étaient des gens qui, dès le départ, sur un plan magique, ont été considérés comme des gens touchés par Dame Nature, c'est-à-dire qu'il y avait justement cette petite touche particulière qui fait qu'ils sont marqués du doigt de la main de Dieu, si vous voulez. Je le résume comme ça, parce que c'est un peu l'idée. Donc tous les gens anormaux étaient des gens sacrés, des gens divins. Donc la normalité était une chose assez commune. Et là, on commence déjà à comprendre certaines choses religieuses qui nous font découvrir que chaque fois qu'on est exceptionnel, on est quelqu'un de mieux que le commun des mortels. Par exemple, mourir dans son lit, c'est terrifiant. Faire la guerre et mourir pour le soleil, ça c'est bien. Donc on comprend. Ben oui, à partir de là, on peut comprendre la mort, on peut comprendre le sacrifice humain, on peut comprendre un tas de choses parce que la philosophie de départ est tout à fait différente. De manière magique, elle est différente. Alors, il y a des salles superbes, on en parlera peut-être plus avant quand on ira visiter Teotihuacan, par exemple. Une salle magnifique où on a une...
Teotihuacan, c'est un site qui est juste à côté de Mexico.
40 km, 40 et quelques kilomètres de Mexico. Tout le monde connaît ça à cause de la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune. Enfin, ce sont des monstres. La pyramide du Soleil fait 1 million de mètres cubes. Il y a des maquettes.
Folie des grandeurs à cette époque.
Oui, et surtout que c'est la seule qui a été construite d'un seul jet au début de notre ère. Là, on a bien avancé dans le temps. C'est la première grande culture des hauts plateaux. Et c'est tout de suite monumental. C'est tout de suite assez fou. Et ça fait plus de 30 km carrés. Et dans cette salle de Teotihuacan, il y a des maquettes sublime. Et il y a par exemple la reproduction en couleur de ce qu'était Teotihuacan, ou en tout cas les sculptures principales où on voit ces serpents à plumes avec ces grandes gueules. C'est aussi une photo qu'on voit partout pour le Mexique, avec cette gueule ouverte et puis ces plumes.
Un peu terrifiant comme ça.
Oui, et là vous l'avez en Sagex. Mais oui, et grâce au Sagex, on a pu reproduire dans une salle immense le bas de cette pyramide pour donner l'effet de la couleur. Et puis il y a une statue que j'adore dans cette salle, c'est une statue de Chipetotec pour vous montrer à quel point la cruauté est une chose acceptée chez le précolombien. Chipetotec, c'était le dieu du printemps. Alors c'est une superbe pièce d'argile en trois morceaux. C'est un homme debout, assez statique comme cela, et il porte une peau sur la peau. C'est-à-dire qu'en définitive, on écorchait quelqu'un. Chipetotec veut dire « Monseigneur l'écorché ».
Quelle horreur.
Et on portait ça comme vous portez votre pull maintenant. Et, bizarrement, le fond était rouge, on se peignait en rouge et on mettait une peau qui, elle, était peinte en jaune. C'est exactement le rapport avec le printemps, c'est-à-dire la nouvelle peau. Et on se baladait comme ça pendant 5 jours à l'époque aztèque, lors de grandes fêtes. Alors, c'est morbide comme tout, mais dès qu'on a saisi ce côté nature, ce côté un peu magique, on le comprend mieux. Et si vous continuez et que vous allez vous balader un peu plus loin, il y a des collections de masques mortuaires absolument éblouissantes. Ensuite, on passe à la salle Toltec. Alors, en évoluant dans l'histoire précolombienne, on remarque que ce musée est très axé sur le centralisme de Mexico. On a vu les origines près de Mexico, on a vu Teotihuacan près de Mexico, les Toltecs, c'est à 80 km de Mexico. On est remonté dans le temps, on a commencé à moins 8000, on était bloqué au début de notre ère pour Teotihuacan. Les Toltecs, c'est déjà 900, 1200 de notre ère. Alors, c'est très connu à cause des Atlantes. C'est ces énormes statues qui soutenaient carrément le toit d'un temple, qui était un temple qui était dédié à une divinité. Moi, j'aime bien son nom, c'est un des plus difficiles à prononcer en précolombien. Tlahuitzlapantecutli. Ça vous va?
Oui.
Ça signifie tout simplement Monseigneur.
Je ne pourrais pas le répéter. Hein, mais...
Tlahuitzlapantecutli, on y arrive. C'est Monseigneur de l'Aube. C'est donc cette planète Vénus qui naît comme ça, qui est encore là le matin au moment où le soleil va la dévorer au point de vue lumière. Hein. C'est le plus bel instant de l'étoile du berger. Et ces statues soutenaient vraiment des poutres énormes et formaient un palais, un temple à 80 km au nord de Mexico. Et puis ensuite, on glisse dans le centre, la partie centrale. Lorsque vous rentrez, vous avez le parapluie. Au fond, il y a une conque marine posée devant un étang avec des nénuphars et quelques papyrus. Et là, vous avez la grande salle du musée, la salle Mexica. Alors ça, c'est un côté politique.
Ah oui, on est chez les Mexicas.
Les Mexicas, ce sont donc les Aztèques. Ce sont ceux qui ont vraiment vécu à Mexico, Tenochtitlan, et qui ont fondé leur capitale. On dit en 1325, mais c'est une date un peu inventée. Mais c'est des gens qui sont venus du nord, une sorte de migration comme ça, qui s'est installé dans le lac et qui a vécu de façon très difficile. Les mercenaires, ils ont tout eu comme problème. Ils se sont battus contre toutes les communautés qui vivaient déjà au bord de cette immense lagune qui était Mexico. C'était une véritable lagune intérieure, très peu profonde. Et puis, ils vont découvrir le rocher central. Et là, ils vont déjà peut-être s'établir sur quelque chose qui existait, mais ils vont fonder vraiment le premier grand Templo Mayor qu'on ira visiter dans le centre de la ville. Et ce Templo Mayor, ce sera le cœur d'un empire qui va grossir de façon époustouflante. Entre 1300 et 1519, l'arrivée des Espagnols, on va couvrir tout le Mexique, on va aller jusqu'au Guatemala. C'est l'empire le plus incroyable avec l'empire Inca qui se trouve pratiquement à la même époque du côté du Pérou. C'est-à-dire entre 1480 et 1519, d'un seul coup, ça va exploser de façon fabuleuse en faisant payer tribut à tout le monde. Alors quand on pénètre dans cette salle, c'est l'éblouissement parce que d'abord on ne pourrait pas la reconstruire et on ne pourrait surtout pas enlever les pièces qui y sont parce qu'elles ont été posées dans la salle avant la construction de la salle, tellement elles sont grandes. Et vous devinez ce qu'on voit au fond, Frédéric? La pièce majeure, cette immense sculpture monolithique qui se trouvait près de la cathédrale, le fameux calendrier aztèque, hein, qui est vraiment l'image qu'on se fait du musée. Quand on rentre dans la salle, il y a des pièces qui font 5, 6 ou 7 mètres de haut pour certaines, et puis au fond, cette espèce de monument qui est là comme une enseigne de la salle. Alors la salle Mexica, c'est peut-être l'éblouissement. On peut y rester des heures parce que d'abord c'est très très bien conçu, il y a plein de renseignements, c'est en principe en espagnol, c'est vrai, mais on peut suivre un peu l'historique de ce peuple qui est le dernier. Là, je suis obligé de refaire un petit peu l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, on vient de passer plusieurs grandes civilisations, et après les Toltecs, c'est l'héritage. Je dirais que tout ce qu'ont inventé les Toltecs va être repris par ces Aztèques, qui sont les derniers petits, une sorte de mousse microscopique comme ça qui s'installe au milieu de ces marais, et qui finalement va copier tout ce qui existe avant. Et même les idées de construction, les idées de Dieu, les idées, la philosophie, la juridiction, tout cela va être pris des autres. Et finalement, ils vont créer une sorte de coalition, une sorte de culture en amalgame. Et c'est vrai que le Templo Mayor va être le moteur de tout cela. C'est un carré dans un carré, dans un carré. Je m'explique. Vous avez le Templo Mayor qui est encerclé, qui est lui-même le temple principal. Et puis, vous auriez l'idée de la surface de Mexico, la surface de l'Empire. On imagine toujours un carré, comme un peu les poupées russes. Or, la fin du carré, c'est le bord de mer, si vous voulez. Alors, je dirais comme ça, parce que ça me vient à l'idée que le seul moment dramatique des Aztèques qui croyaient au cataclysme, qui croyaient à la fin des soleils, à la fin des ères, des soleils qui avaient déjà existé, on vivait dans le cinquième soleil, et bien ils pensaient qu'il allait se détruire un jour ou l'autre. Et essayez de penser, si vous êtes le dernier empereur aztèque, l'effet que ça avait. Tout à coup, vous imaginez des gens qui viennent de l'extérieur du carré. Des gens qui viennent d'ailleurs, de l'autre côté des mers, et qui ont un dieu, qui ont un roi, qui ont un empereur, un messager, qui en fait annonce une autre religion, une autre formule, d'autres idées. Tout à coup, le carré lui-même se brisait parce qu'on avait affaire à un autre monde. Et cette espèce d'incursion du nouveau monde qu'a représenté l'espagnol, qui était pourtant l'ancien pour nous, eh bien, va briser tout cela d'un seul coup et tout va être abandonné, je dirais, en quelques minutes. On a l'impression que l'aiguille, la pyramide, tout cela va s'écrouler, simplement dans la tête d'abord et puis dans la réalité, bulldozer, les Espagnols vont tout enlever.
Maurice, vous nous parliez tout à l'heure du calendrier aztèque. Alors moi, je vois un gros soleil au milieu, là, et des tas de petites choses autour.
Ah oui, des petites choses, il y en a tout plein même. On l'appelle la pierre du soleil parce que quand on l'admire pour la première fois, c'était une pierre qui normalement était horizontale. Hein. Elle est immense, elle fait 3,35 m de côté quand même. C'est un monolithe. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est effectivement le centre. Vous avez raison, Frédéric. Et le centre, c'est une tête de jeune homme, un peu arrogant, un peu agressif, avec... on a les couleurs d'origine. On était chercher les pigments de ce qui restait. Elle est toute grise aujourd'hui, elle est toute jaunâtre. Mais on a trouvé chaque petit pigment à l'intérieur même de cette pierre et on a pu la reproduire en couleur. Elle est juste là, à votre droite, en reproduction couleur. Alors, c'est un jeune homme avec des cheveux jaunes, qui a une sorte de perruque jaune et qui a les yeux tout ronds, extrêmement sévères, extrêmement durs. Et puis, il a une bouche très curieuse avec des dents fantastiques. Et à l'intérieur des dents, vous avez l'impression de voir pincer comme ça une sorte de langue pointue qui sort, qui a un petit œil, une petite bouche aussi, qui est habitée comme si c'était une langue hiéroglyphique. Et en fait, il s'agit de Tonantiu. C'est le soleil de midi, c'est le soleil le plus agressif, c'est le soleil brûlé, le soleil jaune. Et dans sa bouche, il tient en fait un couteau de silex. Un couteau de silex qui est vraiment le jour du fond.
C'est effrayant, c'est guerrier.
C'est sacrificiel totalement. C'est-à-dire que tout ce que les Aztèques ont conçu a été fondé dans une année, un silex. Parce qu'un silex, pour eux, c'est l'origine et le début du couteau, le début du rasoir, le début du sacrifice humain. C'est une invention politique, c'est-à-dire qu'on a voulu créer un empire uniquement en pensant qu'il fallait nourrir ce moteur qui est là au centre. Alors ce cœur qui est Tonantiu, le soleil du midi, eh bien, il est entouré par quatre hiéroglyphes qui forment une sorte de X autour de lui. C'est comme si je prenais mes deux mains et que je créais un X qui entoure carrément ce soleil. Et les X ou les pointes du X, des quatre parties du X, sont formées par quatre hiéroglyphes encore plus complexes. On voit un jaguar avec quatre petits points, on voit le glyphe du vent.
Est-ce que c'est le même jaguar qu'on a vu tout à l'heure?
C'est le même, c'est vraiment le premier, c'est l'origine même du monde ctonien, tout ce qui vient du dessous de la terre. Le jaguar, c'est le ciel étoilé, c'est la grande. C'est la magie. Et puis ensuite, il y a le vent, bien sûr, qu'on va voir en opposé. On aura la pluie de feu, c'est-à-dire le volcan, si vous voulez, le magma. Et il y aura naturellement l'eau qui tombe du ciel. Donc, je viens d'évoquer involontairement par le jaguar, c'est la terre. Vous aurez naturellement l'eau, vous aurez naturellement le feu et vous aurez le vent, c'est-à-dire l'air. Et là, j'ai placé les quatre éléments autour de ce cinquième soleil. En formant le X et le point central, ce soleil, c'est la balle de caoutchouc qui rebondit dans le ciel. C'est déjà le jeu des Aztèques sacrés, enfin ce jeu sacré qui rebondit chaque fois qu'on veut bien le faire rebondir, qu'on permet le rebondissement, c'est-à-dire chaque fois qu'on lui offre quelque chose, il est capable de repartir comme un moteur. Et ce signe en entier se lit comme étant mouvement. Mouvement, c'est vraiment l'énergie, c'est le moteur du monde. Et en l'occurrence, il y a quatre petits points. Donc le jour, quatre mouvements, a été la création du cinquième soleil. Et les quatre précédents ont disparu. Ils ont disparu dans des cataclysmes. Chacun d'eux a eu son cataclysme. La pluie de feu, ben, vous comprenez que c'est l'éruption volcanique. L'eau, c'est le déluge, etc. Et en même temps, autour, on a placé 20 petits symboles hiéroglyphiques qui représentent les 20 jours du calendrier précolombien. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais on ouvre le temps.
Donc,
avec...
c'est un calendrier précolombien.
Absolument, avec un calcul du temps qui fonctionnait par 13 vingtaines. Le chiffre 13 est sacré aussi, on multiplie les 20 signes, on arrive à 260 jours, ça se répète sans cesse, c'est un calendrier magique. Et il y en avait un autre qui correspondait à 365 jours, 18 mois de 20 jours plus un petit 5 jours. Il y en avait même un qui était vénusien qui faisait 584 jours et tout cela se rejoignait comme une machine, comme des immenses roues dentées, tout cela se rejoignait. Et ces 20 signes, ben je vous donne juste le premier et le dernier. Le premier, c'est un crocodile ou un alligator, si vous préférez.
Il s'appelle. Qui correspond à quoi?
Omecipaclis, c'est vraiment la création du monde. Essayez d'imaginer de l'eau, l'eau étale du début de la création, et puis vous voyez l'alligator qui sort à la surface. Et vous voyez les petites montagnes? Tout ça se forme d'un seul coup. Et quand on prend le dernier, c'est la fleur. Alors c'est 13 fleurs, si je vais jusqu'au bout du calendrier. 13, c'est la mort, c'est la fin des temps. 1, c'était l'origine. Et si je mets fleur, la fleur, c'est la chose qui s'ouvre, c'est la chose qui est magnifique. Mais qu'est-ce qui est notre fleur intérieure? C'est le cœur humain. Et le cœur humain, il est dessiné comme un cœur. C'est la chose qui va permettre par la mort de donner la vie. C'est chaque fois qu'une fleur est offerte, c'est-à-dire qu'un cœur humain est offert, eh bien, l'alligator pourra ressortir de l'eau. Donc le temps ne s'arrête pas, il tourne sur lui-même. Vous avez déjà compris la roue du calendrier, une véritable roue. Et puis autour, vous avez encore des rayons solaires, vous avez du sang, bien sûr, qui est symbolisé par l'idée sacrificielle. Et on termine l'extérieur du calendrier par deux énormes serpents de turquoise qui se font face en bas avec des têtes, une rouge, une blanche. C'est bien sûr la lumière du jour et de la nuit. C'est en fait la voûte céleste. Si je peux dire, le Xiuquatl, qui est le serpent de turquoise, le serpent qui fait la voûte céleste. On a résumé, et on pourrait y rester des heures, en une seule pierre, en une seule sculpture, toute la cosmovision des Aztèques. Et à l'entrée de la salle, vous avez par exemple un énorme jaguar qui vous attend avec un récipient, et quand vous montez pour voir ce récipient, bien vous voyez qu'à l'intérieur, on y déposait effectivement des cœurs humains. Et ceci vous représente vraiment cette façon de manger, de dévorer les choses. Le monde est une machine, a de l'énergie. Imaginez une énergie atomique. Vous êtes très près de la vérité aztèque. tout se transforme, l'énergie se transforme, l'homme n'est qu'un transformateur d'énergie. Son cœur va donner tout cela pour l'énergie solaire. Demain, il reviendra, je vous assure, mais c'est la seule condition, donner pour continuer.
Alors oui, ça fait un moment que nous sommes dans cette salle aztèque et je vois là, juste à côté de moi, une grosse statue, un immense machin en pierre. Qu'est-ce que c'est ?
Vous pouvez vraiment dire machin, c'est assez drôle d'ailleurs.
Oui,
mais
ça n'a aucune forme bien précise.
Non, c'est un bloc de 2,50 m de haut, difficile à définir, ça a presque une forme de triangle, comme ça c'est très ouvert. Et quand on s'en approche, on remarque qu'il y a des parties un peu humanisées, si j'ose dire. D'abord, vous remarquez que c'est une femme, mais c'est très difficile à voir. Je veux dire par là qu'elle a en fait un corps de femme, ou plus exactement, elle a une poitrine extrêmement tombante, comme une vieille de 80 et quelques. Et cette poitrine plate, complètement décharnée, nous prouve qu'elle est très vieille. Et il y a quelque chose de très curieux aussi, c'est qu'on voit qu'elle a des jambes qui ressemblent ressemble à des sortes de serres. Elle est prise en terre véritablement avec des griffes qui pénètrent la matière. Tout ça est sculpté dans un seul bloc. Et il y a deux trois détails comme ça qui vous touchent tout de suite. D'abord une jupe étrange qui est faite de centaines de serpents. D'ailleurs Coatlicue, qui est son nom, ça se traduit par celle à la jupe de serpent. Coatl, c'est le serpent. Et en fait, c'est la grande déesse de la terre. C'est peut-être la plus incroyable statue que je connaisse au Mexique. Et si vous l'observez bien, elle a des bras. Mais ses bras ont des articulations qui sont faites également avec des serres, des sortes de griffes comme cela, avec des yeux qui sortent à chaque articulation. Et là, de nouveau, un côté très, très agressif à la place des mains. Et puis, curieusement, quand on arrive au haut du corps, qu'on a passé la poitrine et qu'on regarde les épaules, on remarque immédiatement qu'il n'y a pas de tête. Et à la place de la tête, il faut bien regarder, deux serpents qui montent comme ça, vous savez, comme les cobras, si vous voulez, qui se font face et qui se touchent au centre. Et les deux yeux, là je viens de toucher le micro, mais les deux yeux forment en même temps les yeux de la statue. Les deux yeux des serpents qui se touchent, et on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule bouche, parce qu'il y a des crocs à ces serpents, et c'est l'entendement mâle et l'entendement femelle qui sortent de sa tête tranchée. On voit très bien que la tête a été tranchée, et par sa mort, elle donne cette espèce d'entendement supérieur. Et là, en plus, quelque chose d'effroyable autour du cou, elle porte des mains qui ont été tranchées, il y a des cœurs humains, on voit très bien la forme du cœur, ils avaient un sens de l'anatomie absolument incroyable, et tout en bas, comme gros cabochon, comme pectoral, et là un crâne décharné. Alors vous imaginez bien que quand je reprends l'ensemble, eh bien on conçoit que cette divinité, c'est la mère divine bien sûr, elle prend racine en terre, elle a quelque chose d'une violence extrême, elle est la dévoreuse d'hommes en même temps, mais c'est elle qui va donner naissance à toutes les grandes divinités. Et particulièrement, elle va mettre au monde la lune et Huitzilopochtli, qui est le grand dieu des Aztèques, qui est en fait l'idée de l'énergie solaire. C'est le grand guerrier que les Aztèques se sont choisis comme chef de leur tribu, si je peux dire, et qu'ils vont placer de façon majestueuse dans le Templo Mayor. Le cœur du monde aztèque est occupé par un temple qui est voué à Huitzilopochtli. Et puis, on en parlera peut-être lors du Templo Mayor.
Oui, on va visiter ce Templo Mayor.
Et à côté, vous avez le temple de Tlaloc, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, le dieu de la pluie. Alors d'un côté, les agriculteurs avec la lune, si j'ose dire, le calendrier lunaire, toutes les formules agricoles. Et puis le dieu solaire, Huitzilopochtli. Alors cette femme qui a la tête tranchée, si vous vous retournez, vous allez dans son dos, vous allez voir qu'elle porte que le collier lui-même, ou plus exactement le lien du collier, la cordelette, est faite d'ondulations très curieuses avec des petites perles. C'est du sang. C'est vraiment un flot de sang qui tient le collier lui-même. Et puis elle a une arrière de jupe qui est encore plus incroyable, il y a des chiffres fantastiques, on retrouve tout le calendrier. Et puis, quelqu'un a eu l'idée de voir ce qu'il y avait dessous. Et sous la statue, il y a encore une sculpture qui représente, comment vous le décrire, c'est assez difficile. Vous prenez un gâteau, vous prenez carrément un gâteau que vous posez sur un plateau carré, et ce gâteau, ce serait par exemple une belle galette, et vous allez remarquer qu'elle a été découpée en quatre et qu'elle était déposée aux angles. Et donc on représente une fois de plus par le petit rond central et le découpage des quatre morceaux de galette, l'idée de tout à l'heure, les quatre éléments et le centre. Donc il y a encore toute une zone hiéroglyphique qui est placée sous les pieds pour bien nous montrer que le contact de la statue avec le sol où elle était placée, certainement dans une maison qu'on appelait la maison noire, qui était le lieu de cette statue au milieu du Templo Mayor, c'est vraiment le lieu de contact absolu entre le monde, l'inframonde, ce qui est en dessous de nos pieds, et puis cette statue qui elle-même est la mer. Mais vous sentez une mer qui a quelque chose d'arrogant, d'agressif, de dévorant. On retrouve ça aussi dans les grandes religions du monde. Hein. C'est vraiment la mer primitive qui est capable de tout mettre au monde et de faire fonctionner l'univers entier. Ça, c'est une fonction aztèque. Vous avez compris qu'avec quelques cœurs, quelques mains tranchées, un gros crâne au centre, eh bien, il n'y a que l'homme qui est capable d'offrir à des divinités pareilles ce petit rien de combustible qui va continuer à faire rouler la machine, fonctionner cette machine. Je crois qu'il faut s'arrêter là. Une locomotive qui n'avancera que si le charbon est mis pour faire fonctionner tout le système à vapeur. Ça, c'est vraiment l'entendement aztèque par excellence. À l'instant où les hommes s'arrêtent, où la communauté ne fonctionne plus, le monde lui-même s'arrêtera et ce soleil va s'éteindre.
Mais nous, on ne s'arrêtera pas. Non, on se retrouve dimanche prochain.
Oui, on ira peut-être au Templo Mayor. On peut changer d'endroit ou on peut finir au milieu de ça. Il y a encore de belles pièces.
À dimanche.